Bonsoir ou bonjour encore à toutes et à tous. On va parler d'un sujet, vous l'aurez peut-être remarqué dans la programmation de cette édition des Imaginales, qui est assez présent, toutes les questions qui tournent autour du religieux et on va dire presque du mystique, même parfois par certains côtés, mais avec un penchant également pour toutes les dérives que cela peut entraîner, et en particulier les questions qui concernent le fanatisme religieux. On va s'intéresser à deux archétypes qui sont de plus en plus présents dans la littérature de l'imaginaire, qui sont les dieux et les anges. Alors je vous préviens tout de suite, on n'ira peut-être pas forcément tout à fait au fond des choses avec certains romans, je pense à Pierre en particulier pour Résonance, parce que ça nous emmènera un petit peu loin dans l'intrigue et qu'on ne va peut-être pas non plus trop tout vous raconter, mais voilà, on va découvrir un peu ces galeries et la manière dont on traite ces personnages un petit peu particuliers, parce qu'ils sont à cheval entre un imaginaire collectif d'un côté et puis des choses, on l'a dit, qui touchent plus à la fois à l'idéologie et parfois au fanatisme. On va commencer avec les dieux, et même les dieux au pluriel, Philippe Ward. Pour ceux qui ne connaîtraient pas, et c'est un tort, votre série autour du détective privé Jean-Philippe Lasserre.
Ah, je croyais que c'était moi.
Non, mais vous, tout le monde vous connaît. Alors, racontez-nous, pour ceux donc, qui ne connaîtraient pas encore, qui est Jean-Philippe Lasserre ?
Jean-Philippe Lasserre, alors, c'est, avec Sylvie, on s'était dit, qu'est-ce que qu'on voulait écrire ensemble ? On s'est dit, sur quoi tu aimerais écrire ? On a tous les deux une passion pour l'Égypte. Manque de chance, Christian Jacques nous a pris tous les personnages. Alors on a dit, oui, l'Égypte, c'est bien, bon, et qu'est-ce que t'es... Et on était fan de polar américain des années 30, donc on s'est dit, on va inventer un détective privé des années 30 qui va faire des enquêtes en Égypte. Comme ça, on a nos deux passions-là. Puis on s'est dit, oui, c'est pas terrible, terrible, c'est déjà peut-être déjà vu, il faut trouver quelque chose de plus. Et ce quelque chose de plus, on s'est dit, eh bien, au lieu que l'enquête, c'est un producteur d'Hollywood qui lui demande, ça va être les dieux. Donc on a inventé une Égypte qui est à la fois réelle des années 30, mais qui est avec les dieux qui vivent vraiment avec les humains. Et nos dieux, c'est-à-dire c'est tous les dieux qui sont des Égyptiens ou les dieux romains, ils ne peuvent vivre que s'ils ont des fidèles. Plus ils ont des fidèles, plus ils ont du pouvoir. Moins ils ont des fidèles, moins ils ont du pouvoir. Donc tous ces dieux n'ont qu'un objectif, c'est avoir le plus de fidèles possible. Et pour cela, il faut tuer les autres dieux ou essayer qu'ils aient moins de fidèles. Et donc notre Jean-Philippe Lasserre, alors Jean-Philippe Lasserre, c'est un hommage aussi à Jean-Philippe Loewer, qui est un archéologue, un égyptologue, pardon, connu, qui s'est consacré toute sa vie à Saqqara. Donc c'est un détective privé qui, après avoir eu des problèmes en Gaule, s'est installé au Caire comme détective bas de gamme. Et un jour, Isis est venu le trouver pour qu'il retrouve le manuscrit de Thoth. Et ce pauvre Jean-Philippe Lasserre va se retrouver au milieu des dieux. Et les dieux, comme on dit, ce sont les people de l'époque, ce sont des gens qui se battent entre eux, qui, pour les humains, ils les aiment pas. Il va se retrouver au milieu de cette faune, aussi bien de dieux égyptiens, mais de dieux grecs, romains, tout ça. Et au fil, il va avoir des enquêtes, il va devenir ce qu'on a appelé, nous, le détective des dieux. Mais ce qui nous a plu aussi, à la fois les enquêtes policières, mais c'était aussi le rôle des dieux, s'ils étaient vraiment parmi nous. Je veux dire que Dieu, c'est toujours quelque chose qu'on ne sait pas. Mais nous, nos dieux, ils arrivent dans la pièce, ils peuvent vous tuer parce que vous les avez mal regardés, ils peuvent vous donner, vous couvrir d'or et tout ça. Et c'est toute cette rencontre entre les hommes et les femmes et les dieux qui nous intéresse. C'est vraiment là-dessus qu'on a joué sur toutes les quatre romans qu'il y a là, ces quatre enquêtes différentes, aussi bien en Égypte, en Grèce, l'Atlantide ou à Rome. Et c'est ce combat qu'ont les dieux entre eux. C'est les dieux, ils se battent entre eux, par les humains, et entre eux aussi, vraiment, c'est de la baston. Et c'est ça qui nous a vraiment plu, qui nous plaît, qui nous fait rire, parce qu'on le prend au second degré, même parfois au troisième, voire au quatrième. C'est pas sérieux, c'est vraiment le détective privé. Je veux dire que pour moi, Jean-Philippe Lasserre, c'est...
4 degrés pour le whisky, c'est pas beaucoup. Hein.
C'est vrai, c'est du 16 ans d'âge, parce que bien sûr, il boit du whisky, comme ses auteurs. Je veux dire que Jean-Philippe, les aventures de Lasserre, c'est qui veut la peau de Roger Rabbit, pour ceux qui connaissent. Ça ne nous rajeunit pas, mais bon. Mélangé avec le Faucon Maltais. Mais vraiment, c'est les dieux qui sont, je dirais, les personnages principaux dans ces histoires, parce que vraiment, ils ont besoin des humains, et parfois, ils ne les aiment pas.
Pierre Bordage, les questions religieuses, spirituelles même, peut-être plus au sens plus large, sont des choses qui traversent bon nombre de vos livres. Et puis.
C'est mal?
Ah non, moi je suis un élément neutre. Je ne fais que le passeur. Oui.
Charon. On l'appelle Charon.
Oui, voilà. Ça. N'oubliez pas de me laisser une pièce en partant. Et donc Pierre, oui, en plus, ça va être pratique pour parler. On va attendre d'avoir fini alors. Et Pierre, oui, résonance. Il y a cet élément peut-être un peu supplémentaire par rapport à ce qu'on voyait d'habitude, c'est que au cœur du récit, on a vraiment là pour le coup un culte.
Oui. Alors oui, les Salahamites dont tu parles, je suppose.
Voilà.
Qui transporte une femme voilée, entièrement voilée, de la tête aux pieds, et qui ne doit être regardée sous aucun prétexte jusqu'à une destination inconnue, pour elle en tout cas, d'elle en tout cas. Bon, ce qui m'intéressait évidemment, c'est de traiter du fanatisme, qui à mon avis est l'opposé de la religion, parce que c'est simplement la captation matérielle de la spiritualité. J'ai répété. C'est-à-dire que je pense que l'expérience spirituelle est proprement intransmissible par les mots. Disons qu'elle est très piégée par les mots parce que les mots sont eux-mêmes de la matière limitée et limitante. Et donc il est difficile pour quelqu'un qui a une expérience spirituelle de la transmettre. Et que, évidemment, ceux qui s'emparent de l'expérience spirituelle de celui qui l'a vécu, on pourrait dire le prophète ou le maître ou je ne sais quoi, sont obligés de le faire par des dogmes, du coup. Il remplace donc l'expérience par les mots et érige des cultes sans comprendre l'expérience, sans jamais l'avoir vécu, donc font une interprétation de l'expérience. Or, il me semble que la spiritualité, la véritable, elle est individuelle, purement individuelle et non transmissible. Et que donc, à partir du moment où on essaie de la transmettre, on se condamne à créer des cultes fanatiques qui sont du coup extrêmement violents. Puisqu'on ne s'est jamais aussi bien entretué que pour le nom de Dieu. Les guerres de religion sont les plus atroces qui soient, je pense. Et nous sommes actuellement en pleine guerre de religion. Je vois pointer une sorte de guerre de religion parce qu'il me semble qu'on n'a rien compris à la véritable spiritualité qui, à mon avis, est intrinsèque à l'être humain. Ce n'est qu'un avis. Voilà. Je hais la pensée matérialiste. Moi, je la hais. Je m'en fous. Je ne veux pas détruire la pensée matérialiste, mais elle ne m'intéresse pas dans le sens où elle est limitée dans la matière et que la matière conduit à la finitude et que ça, donc, ça limite le champ d'expérience. Donc je recherche plutôt une pensée spirituelle individuelle, libre, entièrement libre, qui soit en l'autoréférence de chaque individu. Ce qui n'est pas facile parce qu'on est bourré de conditionnements religieux, sociaux, enfin, etc. Et donc, pour moi, la spiritualité, c'est celle qui débarrasse l'individu de toute forme de conditionnement. Et donc, évidemment, le conditionnement religieux est le plus fort des conditionnements. Donc, il est à l'opposé de la spiritualité telle que je peux la concevoir. Et ça rafraîchit tout le monde, hein, mais il faisait chaud, c'est pour ça.
On va quitter les dieux pour s'intéresser aux anges maintenant, avec la particularité que les dieux, je pense que même quand Philippe évoque les dieux des panthéons antiques, tout le monde voit à peu près ce que c'est. Les anges, c'est peut-être un petit peu moins net, parce qu'on a une image, sans jeu de mots, excusez-moi, mais une image d'Épinal des anges, on les imagine comme les chérubins qu'on voit dans les églises baroques, par exemple, tout joufflus, tout fessus, avec leurs trompettes, leurs petites ailes, etc. Ou alors, on les imagine comme des anges gardiens, sans qu'on sache vraiment trop ce qu'on peut mettre derrière ce terme. Daniel Trussoni va nous emmener à la rencontre d'anges. Et là, vous allez voir que ça évolue différemment. Alors, on va essayer de ne pas trop déflorer l'intrigue de ce diptyque. Mais moi, je voulais savoir, Daniel Trussoni, ce que sont les Néphilim.
Who are the Nephilim? Qui? So, je réponds en anglais.
Ne vous inquiétez pas. Jocelyne va s'occuper de tout derrière.
So, I'll start off just by saying that in my book, there's neither God nor angels. So, although it says that there are, the Nephilim are a breed of human angel hybrids that were first mentioned in a tiny obscure passage in Genesis 6 in the Bible. And for thousands of years since the Christian religion existed, biblical scholars have wondered about this passage, and when I first came across it, it absolutely intrigued me, because it was exactly as Christoph says, the inverse of everything I had thought about angels.
Alors, dans mon livre, contrairement à ce que vous pouvez voir comme titre ici à cette table ronde, il n'y a ni Dieu ni ange. Donc, les Néphilim sont une sorte d'hybride, sont des hybrides d'humains et d'anges. Et tout cela, je l'ai trouvé dans quelques versets de la Genèse où l'on parle d'anges qui seraient venus sur Terre pour rencontrer des femmes et avoir des enfants, se reproduire avec des femmes. Donc, Depuis que l'on étudie la Bible, les experts se posent des questions sur cette réalité, sur ce que sont ces Néphilim. Et moi, j'ai été très, très intriguée, et c'est pour ça que j'ai eu envie de construire un roman autour des Néphilim.
And I'll just add that my interest in writing these books came from one question. When I was reading the Bible and I read about this passage, I wanted to take the Bible and use it as mythology. The primary question that came to me is, what if this were real? What if we lived in a world where the Bible, what really happened in our world, was what the Bible says happened? And so I took the Bible at its word in some ways, and wrote a history of the Nephilim.
Et donc ce passage, comme je le disais, m'a beaucoup intriguée, et je me suis demandé, eh bien, si ce n'était pas de la mythologie, ça serait comment? Et je me suis demandé, et si ce que l'on lit dans la Bible, si c'était vrai, si c'était comme cela que les choses s'étaient passées dans le monde. Donc j'ai décidé de partir de ce point de vue pour aborder la problématique des Néphilim.
Je sens Karina Rosenfeld d'un seul coup rassurée, rassérénée, car elle se demandait un petit peu ce qu'elle faisait là. Mais finalement, la réponse de Daniel vous convient parfaitement, puisque vous aussi, vous allez nous parler de livres où il n'y a pas d'ange ni de Dieu à l'intérieur. Ce qui est tout à fait cohérent avec notre sujet. Expliquez-nous alors pourquoi on sourit et on s'amuse de ça, parce que ça fait quelques jours qu'on se parle par réseaux sociaux interposés sur la question. Qui sont alors vos personnages du coup ?
Non, ça me fait rire parce que moi c'est ma quatrième table ronde sur les anges et je n'ai jamais écrit de livre sur les anges. Voilà. Donc à chaque fois, tous les ans, je vois dans le programme que j'ai une conférence sur les anges et je me dis, bon, bah, peut-être qu'un jour, j'écrirai un livre sur les anges pour qu'on arrête de mettre...
Oui, il y a un message caché, peut-être. Anges,
voilà. Donc, pourquoi... Voilà, c'est ça, c'est ce que j'ai dit. Donc, pourquoi est-ce qu'on m'invite sur des conférences sur les anges ? Parce que j'ai des personnages qui ont des ailes dans le dos. Voilà, et je pense que, du coup, l'association d'idées, c'est ailes égale ange. Donc, tout à l'heure, quand on m'a fait cette remarque, j'ai dit, ça veut dire que les avions sont des anges ? Voilà, donc ça me rassure de voir que je ne suis pas la seule à ne pas avoir écrit sur les anges.
Mais alors qui sont-ils quand même ? Parce qu'il faut quand même qu'on parle de tes livres.
Pourquoi ont-ils des ailes dans le...
Voilà, par exemple.
Ce ne sont même pas des Néphilim, ce sont des personnes qui viennent d'une autre planète où tout le monde a des ailes, donc peut-être que leurs anges n'en ont pas. Hein, voilà.
Ah, par contre, il y a le cœur des anges, voilà, par contre.
Donc voilà, rien à voir avec des histoires d'anges, c'est plutôt une histoire d'extraterrestres en réalité. Donc c'est des extraterrestres qui ressemblent à des humains avec des ailes. Voilà. Donc tout de suite, le message religieux et angélique est très évident.
Oui, mais c'est pas forcément la problématique. Par contre, c'est intéressant d'avoir quand même cette vision, effectivement, de le souligner, de dire d'un seul coup, ah ben ils ont des ailes. Puis quand on les voit sur les couvertures, effectivement, il y a quelque chose qui passe par là, qui touche à un imaginaire collectif. Donc finalement, ce réflexe de dire, tiens, ils ressemblent à des anges, ça doit en être. Et en même temps, quand on vient d'entendre ce que disait Daniel, il y a un peu la même chose chez ces personnages sur le fait qu'ils sont un peu, peut-être pas tombés sur Terre comme les Néphilim, mais il y a un peu de ça.
Oui, c'est vrai que leur monde a été détruit et eux ont été envoyés sur Terre pour pouvoir le recréer. Donc ce sont des sauveurs, ce sont les derniers êtres de leur propre espèce, en fait, qui ont une mission. Donc est-ce que c'est une mission angélique ?
Bon, on y reviendra, j'ai une question là-dessus.
D'accord.
si j'y pense, si j'oublie pas d'ici là. Philippe Ward, alors on l'a bien compris par rapport à nos quatre romans, c'est vous qui êtes celui où il y a le plus de parodies, plus de caricatures, on va dire, peut-être.
Totalement.
Dans ce que vous nous proposez. Faut quand même que vous nous présentiez certains de vos dieux, parce que y en a quand même certains qui sont pas piqués des vers, quoi.
C'est tous les dieux que l'on connaît. Je veux dire, de Isis à Zeus, de Seth. Bon, Seth, c'était le... Je veux dire qu'on a pris les caractéristiques des dieux. Les véritables caractéristiques. On sait que très bien que Seth, c'était un dieu qui est normalement méchant, puisqu'il a coupé Osiris en plusieurs morceaux, et qu'il a même son sexe est parti. Donc on a gardé toute cette mythologie. Vraiment.
C'est une des enquêtes de Jean-Philippe.
Voilà, il doit retrouver le sexe d'Osiris, parce qu'Isis a des besoins, comme toute déesse. Donc on a gardé tous ces dieux, on a gardé aussi tous les rapports qu'ils ont entre eux. Et les rapports aussi entre les dieux de plusieurs pays. Je veux dire, Pierre a parlé des guerres de religion. Je veux dire, moi, je viens dans mon accent d'un pays où les guerres de religion sont dans la chair avec les cathares. Et on s'était dit que si les dieux étaient vraiment des personnages comme nous, ils se battraient entre eux. Et on a des scènes où Isis va se crêper le chignon avec Vénus. Pourquoi ? Parce que toutes les deux sont des déesses et elles veulent le pouvoir. Ou des dieux veulent le pouvoir. Bon, après, on a un dieu qui est un chat, parce que dans l'Égypte antique, le chat est important. Bon, et c'est un chat qui parle. Donc ça, c'est notre petit plus. Et il va accompagner la serre dans des actions. Mais vraiment, le but, c'est vraiment de dire que, par exemple, on est ici, et que Cérunos, le dieu, rentre, il va tuer deux ou trois personnes, parce que c'est un dieu, il faut qu'il montre son pouvoir, et puis il va assister peut-être à la conférence. Et c'est ça qui est intéressant, c'est que la religion, le dieu, à part de s'appeler Moïse, personne ne voit beaucoup Dieu. Beaucoup ont vu Marie, Jésus peut-être quelques-uns, mais Dieu, très peu de gens ont vu Dieu. Et nous, ce qui nous intéresse vraiment dans nos livres, c'est que les dieux, eh bien, ils viennent manger, ils passent, la serre va manger à la table des dieux, ils interrogent, ils sont des êtres humains avec un pouvoir. Et qu'est-ce qu'ils font de ce pouvoir? Et ce pouvoir, c'est la guerre de religion. Ils se servent des hommes, mais eux-mêmes, ils se battent entre eux.
Parce qu'ils s'ennuient vite en plus. Hein.
Ils s'ennuient vite, oui. Un dieu, c'est immortel. Qu'est-ce qu'on fait de 100 ans déjà? C'est dur à le voir. Mais 1000 ans. Et surtout, ils ont cette obsession de rester en vie. Et d'avoir toujours, comme je disais tout à l'heure, de garder le maximum d'adeptes. Et ça, c'est important. Je pense que si un dieu n'a plus d'adeptes, il disparaît. C'est peut-être aussi ce qui peut arriver aujourd'hui. Je veux dire que les religions, on a vu beaucoup de religions qui ont disparu. Ils ont perdu. Je veux dire que la première, les cathares ou tout ça, il n'y a plus personne. Et donc, ce dieu a disparu. Et donc, nos dieux, qui sont, nous, à la fois un peu humains, à la fois des super-pouvoirs, des super-héros aussi, ce sont des personnages qui nous intéressent énormément, justement, parce qu'ils nous ressemblent. Et qu'est-ce qu'ils feraient dans notre vie quotidienne? Si on pouvait les voir, s'ils pouvaient être avec nous, s'ils pouvaient aussi nous influencer. Alors, bien sûr, c'est parodique. Je veux dire que nos quatre romans sont vraiment parodiques. Il y a quand même ce petit fond de religion qui nous intéresse énormément. Mais après, c'est vrai qu'on est, comme je disais, c'est qui veut la peau de Roger Rabbit. On est vraiment dans une parodie où les dieux, c'est Nabila, c'est toutes ces choses-là qui ont le pouvoir, que tout le monde voit, que tout le monde, même les humains adorent les dieux. Ils adorent. Je veux dire que quand les Grecs et les Romains, ils aimaient les histoires de cul des dieux. C'est pas nouveau, aujourd'hui, les histoires de télé-réalité, je veux dire. Toutes ces histoires-là, c'était pour les humains, c'était vraiment fabuleux. Nous, on l'a perdu. Nous, je veux dire, dans les régions monothéistes, on s'en moque. Avec qui couche un tel? Non, Dieu...
Il y en a qui finissent sous la pyramide du Louvre avec des histoires comme ça. Ouais.
Mais c'est vrai, mais ça nous a beaucoup intéressé, les dieux qui couchent avec les humains. Là, les régions monothéistes, pour nous, c'est fini, c'est quelque chose qui est là. Alors que vraiment, les dieux, s'ils étaient à côté de nous, qu'est-ce qu'on en ferait? Comment on les percevrait? Alors, c'est une partie de notre problématique. Mais vraiment, je veux dire que c'est surtout les aventures du détective qui va toujours. Mais il va toujours se frotter aux dieux. Et là, quand on se frotte à un super-héros, on en prend plein la figure. Heureusement, il a du whisky.
Alors, vous l'aurez compris qu'on a deux auteurs qui nous parlent de dieux avec deux visions radicalement opposées, puisqu'on en a un qui relativise et qui tourne à la dérision finalement, et puis vous l'avez compris, avec Pierre c'est quand même beaucoup plus sérieux.
Aucun humour.
Ce n'est pas ce que je voulais dire, Pierre, ça n'a rien à voir.
C'est un mec sinistre.
Mais tu as quand même signé il y a quelques années maintenant une trilogie...
Les prophéties.
Voilà, exactement, ouais. Qui pour le coup porte bien son nom parce que...
Hélas.
On y trouvait quand même les germes de ce qui se passe aujourd'hui.
C'est logique, d'ailleurs, réédité chez l'excellent Diable Vauvert sous forme d'omnibus, qui a été écrite en 2001. Et donc, c'était un peu une anecdote assez marrante parce que le livre est paru en août 2001, donc un mois avant septembre 2001, par définition. Et dans le livre, on parlait d'un attentat islamiste à Disneyland à Paris. Et donc... Bizarrement, comme il y a eu les attentats du 11 septembre 2001, beaucoup de pages culturelles ont sauté et beaucoup de pages qui étaient consacrées au livre, des critiques qui étaient consacrées au livre, l'Évangile du Serpent, ont sauté elles aussi. Donc c'était étonnant comme histoire. Puis après, donc ça c'était la première, c'était une sorte de réécriture de l'évangile, parce que je me suis dit, mais les chrétiens, ils sont quand même assez débiles. Pardon pour les chrétiens qui seraient ici. Mais c'est quand même assez débile, parce que entre ce qui est écrit dans les évangiles, qui pourtant sont des évangiles canoniques reconnus par l'Église, donc ayant fait l'objet probablement de réécriture, il reste des choses, il reste des commandements ou des conseils, plutôt, qu'ils n'appliquent, mais pas du tout, mais pas une seconde, quoi. Ce que vous faites au plus petit d'entre moi, c'est à moi que vous le faites. Rien à foutre. Il est plus difficile à un riche de passer au paradis qu'à un chameau d'entrer par le chat d'une aiguille. Rien à foutre. Etc., etc. Et c'est tout le temps comme ça. Et je me suis dit, mais peut-être il y a un besoin de réécrire les évangiles. Et en plus, vu le tirage, je me suis dit, ça peut être intéressant. Mais bon. Ça n'a pas marché comme ça.
Mais c'est vrai que voilà, il y avait... à la fois dans celui-là et puis dans les deux suivants, où là, par contre, on abordait vraiment un choc de civilisation.
Alors, ben, après, donc, ils sont produits. Donc, j'ai voulu réécrire des évangiles pour essayer de retrouver la pureté même de l'enseignement, c'est-à-dire à ses débuts, et de voir comment tout de suite ça bascule. Dès qu'il y a une couche de disciples, les disciples font basculer l'enseignement vers quelque chose de dogmatique. Bon, ça, c'est la première chose pour ce roman. Le deuxième, c'est l'ange de l'abîme. Ça, c'est en relation avec les événements du 11 septembre 2001. Où je me suis dit, George W. Bush a décrété qu'il y avait un axe du mal et qu'il fallait aller casser la gueule à certains types dans le désert là-bas, en Irak et tout ça. Et l'axe du mal, pour moi, ça voulait dire affrontement. Ça voulait dire nous sommes dans le camp du bien, ils sont dans le camp du mal, nous allons faire une guerre entre le bien et le mal. Et je me suis dit, bah, en tant qu'auteur, j'ai cette possibilité de projeter cet embryon de conflit un petit peu plus loin et de montrer que finalement, ce conflit ne fait de bien à personne, quoi. C'est extrêmement douloureux pour tout le monde, un conflit de cette nature. Et donc, bah, je vois avec un peu d'anxiété se poindre cet affrontement entre les civilisations, entre l'axe du bien et l'axe du mal. Chacun se croyant l'axe du bien, chacun déclarant l'autre l'axe du mal. D'ailleurs, c'est ça qui est plutôt amusant. Enfin, amusant. Et puis, le troisième s'appelle Les chemins de Damas, qui fait référence aux actes des apôtres et des évangiles, parce que c'est très référencé tout ça. C'est donc l'après-guerre... Et une sorte de tentative où le Moyen-Orient est devenu quelque chose d'un peu inaccessible, fermé, etc. Et c'est la tentative de réconciliation entre les uns et les autres. Parce que je pense qu'au fond, ce qui nous rassemble tous, c'est l'humain et l'humanité. Et que les religions, c'est normalement religaré, hein, ça veut dire relié, et elles divisent. Et donc la véritable religion, je pense, universelle, c'est l'humanité.
Donc,
c'est pas drôle, là, vous avez remarqué ?
Ouais, ouais. Il va falloir que tu remédies à ça. Hein, parce que...
Oui, bon, je vais faire un truc parodique à la Philippe. Là.
Daniel Trussoni, Pierre Bordage évoquait les évangiles en rappelant que les quatre que l'on connaît sont des textes canoniques qui ont donc été choisis. Vous, votre intrigue, elle repose aussi beaucoup sur deux textes. Le premier qui est le livre d'Enoch et le deuxième qui est alors un récit d'un religieux du Xe siècle, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Clématis.
Yes.
Alors, est-ce que vous pouvez nous présenter, brièvement, sans rentrer forcément trop dans les détails, mais ces deux textes, et surtout, est-ce que ce sont deux véritables textes ?
Okay, that's a great question, because the entire series is a mixture of reality and fiction. And I try very hard in the series to confuse my reader about which is which. The Book of Enoch is a real text, and it's a canonical text that was studied by the Church Fathers, has been studied many, many times over the years. The book, the Clematis's book from the 10th century is not. That's something I wrote. And I added it to the text, to the novel, but presented it as real. And so part of my method as a writer, especially in books like this, is to take reality, take fiction, and make it almost indistinguishable from each other.
Alors, c'est une excellente question. parce que en fait, c'est ce que j'avais envie de faire dans ma série justement, c'était de mêler réalité et fiction, et que le lecteur n'arrive pas à faire la différence entre les deux, c'est-à-dire que le lecteur ne sache pas ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Et donc le livre d'Enoch, oui, il existe, et le livre d'Enoch, il a fait l'objet de plein d'études, et ça c'est réel, j'ai fait beaucoup de recherches dessus, tandis que Clématis, eh bien, c'est la fiction. Et moi, j'aime beaucoup mélanger réalité et fiction dans mes romans et surprendre mes lecteurs. Donc, j'ai envie, en fait, que le lecteur ne puisse pas faire la distinction entre les deux.
As I was writing, I made an outline of events, historical characters, and fictional ones. For example, in the first book, Abigail Rockefeller, who was the wife of a very rich American, started, you know, did a lot of philanthropical works, is a character. Her actions and her contributions to the fight against the Nephilim is, of course, fiction. So one thing that was a great pleasure for me after the books were published is I had readers who would write to me with a list of questions. Is this real? Did this happen? I looked on Google. I saw this. I can't find this. Is this real? And I would have so. It's really the best part of writing for me to have created such a far out idea, such an unreal idea as the Nephilim actually existing, but people reading it and believing that maybe they actually do.
Donc, dans le processus d'écriture du roman, moi, je m'étais fait une liste d'événements historiques et de personnages historiques que je voulais intégrer au roman. Et Abigail Rockefeller, effectivement, elle a vraiment existé. Elle a beaucoup contribué aux œuvres de charité de son époque. Mais son combat contre les Néphilim, ça, c'est complètement fictif. Et en fait, un des trucs qui m'a vraiment plu en tant qu'auteur, c'est de voir les réactions des lecteurs qui m'envoyaient des listes de questions, des listes entières de questions. Et ils me demandaient, ça c'est un fait, ça c'est réel, parce que j'ai fait des recherches sur Google et j'ai rien trouvé à ce propos. Alors moi, j'ai adoré ce contact avec mes lecteurs parce qu'ils croyaient vraiment dans mes personnages, ils croyaient vraiment que les Néphilim avaient existé, tandis que c'est complètement irréel, et ça c'était la partie fiction du roman.
Il faut dire que sur le livre de Clématis, il y a quand même 17 notes de bas de page, je crois. Sur le livre de Clématis. Donc c'est vrai que ça donne l'impression qu'on a presque une exégèse.
I get very involved in creating these worlds. For me as a writer, the creation of the world is the primary thing. So when I was writing the book of Clematis, I did make notes. I did a lot of historical reading to try to match the language with the language of that period. And I became completely immersed in the creation of it. So yes, and now I've forgotten it. So it's this is, you know, it was like a meditation, and now I've woken up.
Alors, je suis vraiment passionnée pour le sujet. Pour moi, c'était vraiment une expérience extraordinaire. Je me suis plongée dans l'époque. Et pour moi, c'était important, justement, que la langue de Clématis corresponde à la langue de l'époque. Et c'est comme si j'étais dans une méditation, en fait, et que je viens uniquement de me réveiller. Donc, oui, pour moi, c'était quelque chose de très prenant.
On reviendra sur, après, le thème, véritablement, parce que c'est, en plus c'est un thriller qu'on suit et qu'on dévore, mais voilà, c'était aussi important de planter ce décor pour que ceux qui ne vous auraient pas encore lu comprennent bien de quoi on parle. Karin Rosenfeld, alors, venons-y à la question piège, parce que c'est pas moi qui évoque le fait qu'il y ait une mission sacrée, ce sont les personnages qui désignent ainsi leur quête, donc il y a quand même, malgré tout, que vous le vouliez ou non, quelque chose qui dépasse le profane.
Oui, bah quand on doit refaire revenir une planète entière, je pense que ça prend des dimensions du sacré, parce qu'on refait venir un monde, donc physique, mais aussi avec toutes ses âmes. C'est pour ça que le tome 1, d'ailleurs, s'appelle le livre des âmes, puisque c'est le livre dans lequel toutes les personnes qui vivaient sur cette planète sont, entre guillemets, encodées pour pouvoir renaître un jour. Donc, et le troisième tome, c'est le livre du temps, puisque pour moi, le monde, pour pouvoir renaître, est obligé aussi de porter en lui son histoire. Donc pour pouvoir être dans le futur, il faut qu'il y ait son histoire et son passé qui soient racontés. Donc il y a trois livres mondes à retrouver. Le premier, c'est le livre des âmes avec les gens. Le deuxième, c'est le livre des lieux avec la planète physique. Et le troisième, c'est le livre du temps avec son histoire. Et c'est ces trois éléments qui permettront de recréer la planète. Donc oui, effectivement, on peut voir que c'est quelque chose de sacré, dans le sens où recréer des vies entières, des histoires avec leur passé, avec, avec leur expérience et tout ça. C'est pas une planète qui va rejaillir vierge de tout et hop, on la fait renaître et youhou, c'est les dinosaures et tout. On la reprend là où elle s'est arrêtée au moment de sa destruction et on essaye d'avancer. Donc c'est quand même une tâche assez importante.
Et ça incombe à des adolescents.
Voilà, ils ont 16 ans.
Ils n'avaient pas demandé grand-chose à personne.
C'était l'idée, c'est que mon adolescent principal, que j'ai appelé Ézéchiel, donc là aussi on peut retrouver une référence biblique, puisque dans la Bible, Ézéchiel.
Après, vous vous plaignez quand même.
Non, mais je fais toujours des références. C'est vrai que même chez Bérit, la planète à recréer, c'est un anagramme de Bereshit qui en hébreu veut dire Genèse. Voilà, donc on recrée un monde, on repart à la Genèse. Mais je voulais l'appeler Genesis au début, mais ça fait un peu Star Trek, donc je me suis dit non, on va éviter. Donc je me suis dit, je suis repartie dans le texte original, et puis Bereshit, le commencement en hébreu, et je me suis dit, bah, si je mélange un peu les lettres, ça fait chez Bérit, c'est sympa et tout. Voilà, Ever, le passeur, c'est dans la Bible aussi, hein, c'est les Hébreux dans le désert pendant les 40 ans d'Évrance. Donc j'utilise des références, c'est vrai,
Eden.
Mais... Et Ézéchiel, c'est le prophète qui a vu des, soi-disant, des anges qui sont arrivés, etc. Donc j'ai Éden, le paradis. Bon, j'aime bien mettre des clins d'œil comme ça. Il y a des gens qui s'en rendent compte. La plupart du temps, ils s'en rendent pas compte. Donc c'est pas mon but principal, mais ça m'amuse. Voilà, c'est une petite, voilà, les gens qui le voient, je me dis ah bravo, bien joué. Voilà, mais oui, donc on peut voir. Mais de toute façon, à partir du moment où il y a une quête vers la vie, il y a toujours quelque chose de l'ordre du spirituel et du sacré, à mon avis, parce que je suis d'accord avec Pierre pour dire que c'est le spirituel, l'humanité, tout ça, c'est... Ouais, mais je suis souvent
toi,
d'accord avec Pierre.
Tu n'es pas tout seul, Pierre.
Voilà. Et donc,
on a un club, Karina et moi.
Voilà.
Des gens pas drôles qui...
qui écrivent des livres pas drôles. Et donc, voilà, mais c'est vrai que c'est quand même une mission d'une dimension assez faramineuse pour un ado de 16 ans qui n'a rien demandé et qui, du jour au lendemain, se retrouve parachuté dans cette aventure et qui n'a pas envie, en fait.
Alors pour faire plaisir à Pierre Bordage, je vais maintenant casser le mythe de Philippe Ward et de son aspect caricatural et satirique, puisqu'on va parler du dernier tome, qui est quand même le plus sombre pour l'instant du cycle.
Pour l'instant, oui, parce que le cinquième sera encore plus sombre.
Ah, comme quoi, tu vois, c'est pas une invention.
Je dirais que sombre... Oui et non, je veux dire, déjà, il est différent des autres parce qu'il a deux personnages. On s'est amusé à écrire un chapitre, un personnage, un chapitre. Jeu, avec le jeu, parce que ce n'est pas évident. Donc, dans le quatrième tome, c'est à la fois notre détective et à la fois sa secrétaire, Fazimel. Donc, on a un chapitre avec l'un, un chapitre avec l'autre. Après, il est sombre parce qu'il se passe à Rome. Il se passe avec un nouveau dieu qui s'appelle l'Unique et qui veut le pouvoir. Voilà, et l'Unique, c'est vraiment un dieu sombre, noir et tout, mais il veut être le pouvoir, et donc il veut tuer tous les autres dieux pour être le seul. Alors, la serre va se retrouver, les autres dieux, il se passe quelque chose, ils sentent quelque chose, donc ils l'appellent, et donc c'est lui qui va se retrouver entre à la fois les dieux égyptiens, les dieux romains, qui ne peuvent toujours pas se voir, il suffit de lire Gala, ici Paris, ça vous saurez tout, sur eux, et ce dieu unique qui veut le pouvoir. Et dans ce quatrième tome, parce que dans chaque tome, on essaye avec Sylvie de trouver des thèmes différents. Et ce n'est pas toujours évident. Donc ce quatrième tome, c'est dans les arènes du temps. Il y a les arènes de Rome et il y a le temps. Donc c'est aussi un voyage dans le temps où la serre va suivre toutes les aventures de ce dieu unique. Qui, comme il est dieu, il est immortel depuis des milliers d'années. Il en a toujours après les autres dieux. Il essaye de s'imposer. Il essayait de s'imposer un jour par des tables de la loi, par un buisson ardent. Un jour, il s'est fait crucifier. D'autres jours, il lui arrive, et tous les autres dieux arrivent toujours à se débarrasser de lui. Et là, il a un pouvoir encore plus grand. C'est encore un super-héros. C'est Capitaine America contre... Et donc là, il est près du pouvoir. Et les autres dieux, qu'ils soient, pour une fois, qu'ils soient romains, égyptiens ou autres, vont en quelque sorte s'allier pour ne pas perdre leur pouvoir à eux. Je dirais qu'il n'est pas noir parce que justement, il y a toujours ces on essaie toujours de mettre des personnages un peu farfelus dans nos histoires.
Qui rappellent étrangement certaines personnes.
Qui rappellent certaines personnes présentes. Il y en a une ici, pas dans la salle, mais dans la bulle du livre, il y en a une. C'est un faune. Je ne me souviens plus son nom. Delmo Gigiallo.
Oui. Malmedjiano. Oui.
Malmedjiano. Bon, ça, c'est notre petit plus à nous. Pour s'amuser, parce que je vais dire, nous on prend plaisir à l'écrire pour que le lecteur prenne plaisir, parce que même s'il dit que c'est noir, non, ne le croyez surtout pas, on a rigolé en l'écrivant, et je sais que les gens aussi s'amusent, parce que justement, il arrivait tellement d'aventures que là. Mais c'est vrai que nous, c'était cette histoire, c'est comment on est passé d'une religion avec des milliers de dieux ou des centaines de dieux à la religion monothéiste. Et donc, c'était un peu ça.
Si je disais que c'était un peu plus sombre, c'est parce qu'on touche aussi, mine de rien, à des sujets beaucoup plus proches de nous, comme l'évoquait Pierre, finalement.
Voilà, oui, c'est ça. C'est les guerres de religion, mais que, pour une fois, ce ne sont pas les hommes qui font les guerres de religion, ce sont les dieux qui se battent entre eux. Alors, ils se servent bien sûr des humains, mais, comme je disais, ils se tapent dessus pour ce pouvoir. Et des fois, ça ne serait pas plus mal que les dieux se débrouillent entre eux, qu'ils nous laissent tranquilles. Mais ça, je pense que c'est un rêve. À l'heure actuelle, je ne pense pas que ça arrive. Même s'ils n'existent pas, c'est ça qui est le plus fort, c'est que même si on ne sait pas s'ils existent, on se bat contre eux. Là, au moins, je veux dire que les humains, ils se battent, mais ils savent que les dieux existent, parce qu'ils sont derrière eux, ils sont à côté. Je veux dire, la guerre de Troie, pour moi, c'est vraiment la guerre de religion la plus fabuleuse qui existe. Les hommes se battent les uns contre les autres pour une femme, même pas pour la religion, et les dieux se battent, ils choisissent chacun leur camp, et ils se battent entre eux, et ils se tuent. Et puis, vous avez aussi les demi-dieux, parce que les dieux couchent avec les humains, et vice-versa. Et ça, pour nous, c'est vraiment un monde de fantaisie absolument où on peut trouver tout ce qu'on aime. Mais c'est vrai que l'unique nous a plu parce qu'il fallait qu'un jour on en parle du monothéisme dans notre truc. Et comme, alors on ne dit pas comment elle est arrivée, ce n'est pas notre but, on ne refait pas le monde, on ne refait pas l'histoire. Mais c'est vraiment cette guerre entre un seul dieu qui veut le pouvoir absolu et tous les autres dieux, qu'ils soient grands ou petits, parce que vous avez des dieux, vous avez Isis, Osiris, mais après vous avez des dieux minuscules, des petits dieux, qui étaient adorés par 10 personnes en Égypte ou 30 personnes en Grèce. Et c'est tous ces dieux-là qui voient leur pouvoir qui commence à se réduire, et qui ont la trouille au ventre de s'évaporer. Parce qu'il y en a un qui a pris le pouvoir.
Pierre Bordage, résonance, on a parlé du culte qui est au cœur de l'histoire, mais ouais. C'est justement un individu qui va, on peut peut-être le dire, par amour, c'est peut-être un peu fort, mais en tout cas parce qu'il a croisé le regard.
Non, c'est pas fort, c'est de l'amour, que de l'amour.
Il va décider de lutter contre cet arbitraire religieux.
On parle
de résonance.
De Soin.
Oui, voilà, Soin.
Soin a une vision particulière de l'existence parce que lui, il essaie de trouver l'accord, sa résonance, c'est-à-dire d'être en résonance avec sa propre vie. Et quand il voit cette femme qu'il n'aurait jamais dû voir, parce que je vous rappelle, elle est voilée et que n'importe quel regard, si un homme ou n'importe qui la surprenne sans son voile, est normalement mise à mort. Donc il la croise par un concours de circonstances parce qu'il a un don de dédoublement qui s'appelle la préconition. Il en tombe totalement éperdument amoureux parce qu'il sent quel est son accord. Donc il va se lancer à sa poursuite. Et effectivement, mais pas tellement pour lutter contre la religion salamite, mais pour retrouver celle qui va lui permettre d'exister pleinement. De son côté, Eloïa, qui est la femme salamite voilée, va aussi avoir sa propre évolution, parce que sous son voile se cache une femme qui est très finalement ouverte et qui va connaître différentes expériences, entre autres grâce à une machine qu'on va lui confier dans l'espace et qui va lui apprendre, enfin qui va la conduire à quelque chose de très particulier qui est le saut temporel. Donc toute l'histoire repose sur un regard, comment vais-je retrouver celle que j'aime dans l'espace, parce que c'est déjà compliqué dans un pays. Mais alors dans l'espace, ça devient extrêmement difficile parce qu'il ne sait pas où elle va. Lui-même est un pilote qui est un peu coincé sur la planète où il travaille qui s'appelle Derestap. Donc il y a tout un tas d'obstacles qui vont se mettre entre lui et elle. Et va-t-il réussir à la trouver ? C'est ça. C'est vraiment une histoire d'amour dans l'espace. Et pour moi, l'amour transcende évidemment toutes les religions et tout le reste, parce que c'est la seule valeur, à mon avis, qui vaille la peine d'être défendue. Parce que normalement, les religions sont faites d'amour à la base, et on l'a un peu oublié. Et donc, c'est cette valeur-là qui va permettre je ne veux pas dire la rencontre, parce que ça sera dévoilé à la fin, quand même. Ça peut mal se terminer, des histoires d'amour en général finissent mal, enfin, etc. Qui va...
Vous assure qu'il y a un dieu à un moment.
Il y a une créature un peu étrange et au pouvoir fabuleux. Alors, est-ce un dieu, est-ce un démon, c'est simplement un extraterrestre. C'est difficile de lui donner un qualificatif. En tout cas, c'est quelqu'un de très particulier, ce dieu, qu'ils vont rencontrer plus tard dans le roman. Donc, c'est vraiment une quête d'amour. Et je voulais vraiment ça parce que pour moi, le sujet des romans, quels qu'ils soient de fantasy, de science-fiction, d'heroic fantasy, de fantasy historique, de tout ce que vous voulez, pour moi, le véritable sujet des romans, c'est l'amour, quoi. Et je pense que plus un auteur aime ses personnages, et plus il leur donne de la richesse. Et même les méchants, j'ai fait une expérience avec Absalon, que je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu. Absalon, c'est le monstre parfait, c'est le tueur de femmes, c'est le mec qui a des grosses mains, et qui, un petit peu comme Georges dans Des souris et des hommes de Steinbeck, vous savez, celui qui caresse ses souris, qui les écrase de son vouloir, ou qui, dès qu'il s'approche d'une femme, il la tue parce qu'il ne peut pas faire autrement, le pauvre. Et Absalon, il est un peu comme ça. Il décervelle les femmes, il leur écrase le crâne, il leur tire le cerveau et il ne sait pas pourquoi cette compulsion-là. Et je me suis dit, c'est vraiment, j'ai pris le personnage, j'ai fait le plus noir possible, le plus détestable possible, et je l'ai accompagné pendant tout un roman vers sa rédemption. Et sa rédemption, elle est possible grâce au regard d'une femme, au regard d'amour d'une femme. Et à la fin du livre, j'ai pleuré, voilà, comme une midinette que je suis. Et j'ai pleuré en quittant ce personnage parce qu'il m'avait vraiment ému, il m'avait bouleversé, c'est lui qui m'a entraîné. Et puis il y a un autre personnage qui a fait ça, c'est dans L'Enjeu mineur, il s'appelle Cornuau, c'est un affreux qui se trouve dans tous les mauvais coups de la Révolution. Mais d'ailleurs, j'ai eu le même plaisir que ma consoeur pour mélanger la réalité et la fiction et les questions des lecteurs, est-ce que c'est vrai, est-ce que c'est pas vrai, et ça c'est vrai, mais non c'est faux, et ça c'est faux, mais non c'est vrai. Et ça m'a beaucoup amusé aussi. Où j'ai un personnage qui, pour moi, est aussi un archétype de méchant, bien que vendéen, donc vous voyez, je ne suis pas chauvin. et donc, je ne m'attendais pas du tout à ce qu'il ait une rédemption, mais pas du tout. Je pensais que ce personnage allait être misérable du début à la fin, et il se trouve que vers la fin, il est allé vers sa rédemption, et ça m'a complètement surpris. Et ça m'a aussi enchanté, parce que je pense que dans le plus noir des cœurs, du cœur de l'homme, il y a aussi de la lumière, quoi. Je m'arrêterai là, peut-être.
Oui, c'est...
Il y a plus la musique céleste qui accompagne.
On a tous la larme à l'œil. Vanet Trussoni, on a évoqué un peu le contexte de cette malédiction des anges, et suivi par le deuxième volet, Angelopolis, dont on ne dira pas grand-chose, parce qu'il se passe quand même des choses à la fin de la malédiction des anges, on ne va pas les révéler ici. Mais on est... vous l'avez évoqué rapidement tout à l'heure, c'est qu'on est dans le contre-pied de l'image qu'on a de l'ange. Puisque l'ange devient menace chez vous.
Yes, oui, tout à fait.
Ce sont les méchants.
Exactement. No, actually, it's the offspring of angels and humans that are evil. So it's the Nephilim that have become evil, and the over the course of history, this book really spans the world of the book is from the events in the Bible. When angels came to earth and mated with human women and created this race, up until a contemporary moment when there's a young heroine who realizes that she's part of this ancient network. And this is what plunges us into the story. The Nephilim are essentially evil. The angelologists are a secret society of scholars who fight them and have for thousands of years. And between these two, you have a play, you know, the play between good and evil.
I'm going to forget if I don't write down the last bit.
No, that's okay. That's okay. Alors, il faut savoir que, en fait, pour ce qui est du bien et du mal, dans mon roman, ce sont les descendants des anges et des humains, reproduits avec des humains, qui découvrent le mal, qui se tournent vers le mal. Donc, ce ne sont pas les anges qui sont mauvais, mais leurs descendants. Et donc, il faut savoir que dans mon roman, les anges et les humains, donc, ont créé ensemble cette race qui sont les Néphilim. Et donc, moi, je vais du début donc, de la Bible, de la création des Néphilim, jusqu'à l'histoire, l'époque contemporaine dans mon roman. Donc, je couvre toute l'histoire, si vous voulez, depuis la Bible. Et dans le roman, il y a un personnage contemporain qui découvre qu'elle est, elle, au centre de cette histoire. On n'en dira pas plus. Et il faut savoir qu'il y a, contre les Néphilim, des angéologues. Les angéologues, ce sont des experts, des scientifiques qui consacrent toute leur vie à lutter contre le mal que représentent les Néphilim. Donc il y a ce conflit entre le bien et le mal, et je l'ai abordé comme cela, avec ces Néphilim et qui sont en conflit avec les angéologues.
But one thing that's very interesting about the course of the book, for me as the writer, is that the interweaving between good and evil becomes almost impossible to avoid. And the idea that there is such a thing as good and evil is inverted. In these books, there is no good and there is no evil, really. It's just very ambiguous.
Au fil de l'intrigue, en fait, je me suis rendu compte que je ne pouvais pas éviter d'aborder les questions de bien et de mal, mais je me suis amusée à inverser les concepts que l'on peut avoir du bien et du mal. Et on se rend compte, finalement, je me suis rendu compte moi-même qu'il n'y a pas vraiment de bien et de mal, de noir et de blanc, et que tout est zone grise.
Il se trouve quand même qu'au départ, on est sur des gens qui ont été déchus. Donc ils ont quand même ce côté, alors pareil, on tombe dans l'imagerie traditionnelle, mais ce côté noir finalement des anges déchus. Et il y a, alors pareil, c'est encore difficile de parler sans trop en dire, mais il y a des scènes où il y a cette espèce de fascination malsaine finalement pour ce que sont ces créatures.
I love Milton. Milton is my great inspiration for that, for this part of it.
C'est vrai que j'ai oublié le paradis perdu dans les livres qui sous-tendent l'intrigue.
It's really a sort of a base for this. But I do, it's true, I take a lot of pleasure in the dark side of these creatures. And for me, I would never have written this book if it were about happy, you know, beneficent angels. It would just be not interesting to me.
En fait, il ne faut pas oublier de mentionner John Milton, parce que j'ai tiré beaucoup d'inspiration de la poésie de Milton. J'adore John Milton. Et donc, ce qui m'intéressait, moi, c'était pas de parler d'anges qui sont bons et qui sont gentils. Je ne voyais pas trop ce que je pouvais raconter à leur propos. Et donc, ça m'amusait beaucoup plus de me pencher sur le mal plutôt que sur des anges qui soient tout gentils et tout sympas.
Karin Rosenfeld, il se trouve que chez Daniel Trussoni, certains des Néphilim sont malades. Alors voilà, si on ne va pas encore en dire trop, on va laisser l'intrigue. Mais on retrouve aussi un peu cet aspect-là sur vos personnages. Ils sont en sursis, finalement.
Par rapport à la valeur de monde ?
Oui.
Oui, parce qu'il faut un méchant quand même dans l'histoire. Et je ne voulais pas faire un méchant, c'est... Voilà. Elle pleure parce qu'il y a des méchants. Le méchant, je ne voulais pas que ce soit le méchant caricatural, genre « je suis méchant, je vais casser tout ». Pour moi, c'est une entité. C'est sur ce monde, il l'appelait la valeur de monde. C'est la balance de... Il y a la création et il y a la destruction. Pour arriver à l'équilibre dans l'univers, et lui, il est la destruction. Donc quand il détruit une planète, un monde, il ne le fait pas parce qu'il est méchant, parce qu'il n'a pas envie de détruire la planète pour se dire « Oh, bah tiens, si je détruisais quelques millions de personnes, là, ce serait... »
Il n'y a pas de d'ange, mais il n'y a pas de démon non plus.
Voilà, il n'y a pas de d'ange, il n'y a pas de démon. Lui, il est l'entité destructrice de l'univers quand il y a un trou noir qui avale les étoiles, quand il y a, une planète qui se réduit à l'état de naine rouge parce qu'elle a fini son cycle. C'est la destruction, c'est la valeur de monde. Et donc, il n'a pas détruit la planète par vengeance ou par méchanceté ou par... pure méchanceté, il le fait parce que ça fait partie de l'équilibre de l'univers, il était temps pour ce monde de disparaître. Et donc quand les personnages principaux décident de le recréer, ils vont à l'encontre de l'équilibre de l'univers. Et lui décide que c'est pas possible d'aller à l'encontre de l'équilibre de l'univers, et donc il veut les arrêter. Donc il vient sur Terre pour pouvoir arrêter ce processus de recréation, pour pas qu'il se passe des choses bizarres dans l'univers.
J'ai une petite dernière question pour vous, Karina, c'est qu'il y a une deuxième trilogie, dont le premier tome, oui. Je l'aperçois ici, avec les mêmes personnages. Ils ont changé entre les deux trilogies ?
Ils ont 2 ans de plus, donc entre 16 et 18, quand même, on change un petit peu. Ils sont plus sur deux, puisqu'ils ont déjà vécu une trilogie complète d'aventure, hein, ça marque. Donc voilà, et 2 ans après, ils repartent à l'aventure.
On a spoilé la fin de la première trilogie, puisqu'on sait qu'ils ne sont pas morts.
C'est vrai, mais cela dit, je tue rarement mes personnages...
Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Voilà. Donc, bon, ça m'arrive, hein. Mais voilà. Mais là, non. Pas eux. Et oui, ouais, ça se passe 2 ans après.
Il y a la police
et...
du spoiler.
Voilà, dis attention. Ils partent en vacances. Donc là, ils ne partent pas à l'aventure pour jouer les Indiana Jones. Ils partent juste en vacances pour se reposer après avoir passé le bac. Et badaboum, évidemment, l'aventure les attend au tournant. Sinon, ce n'est pas rigolo. Donc j'ai écrit cette deuxième trilogie qui ne s'appelle pas La quête des livres mondes, mais qui s'appelle La quête des pierres de Luette. Parce que La quête des livres mondes a été un super succès. Il a eu le prix imaginal des collégiens ici pour la première année où il y a eu le prix imaginal des collégiens. Donc j'ai ouvert la voie, c'était super, une belle expérience. Et le prix des incorruptibles, etc. Il a vraiment bien marché. Et donc mes lecteurs, une fois que la trilogie s'est terminée, sont tous venus me voir en me disant oh, on en veut plus, on adore les personnages, c'est trop génial. Hein? J'ai dit mais non, mais j'ai fini ma trilogie, moi j'ai plus rien à raconter. Ça y est, ils sont tous morts.
C'est horrible ça.
Et donc voilà. Et finalement, j'ai une idée qui n'est pas la suite, mais qui est une nouvelle aventure. C'est pour ça que ça s'appelle pas de la même façon. Mais on retrouve mes personnages ailés qui ne sont pas des anges 2 ans après, qui vivent une nouvelle aventure qui n'a vraiment rien à voir. Quoi. On n'est plus dans la même quête. On n'est plus dans la même. On cherche pas à recréer un monde. On cherche plutôt à le sauver là.
Ben voilà, on arrive au terme de cette table ronde où on a parlé d'anges, de dieux et d'autres choses. Comme quoi, vous voyez, il faut tout pour faire un monde imaginaire ou pas. Et puis, ben, vous l'avez compris aussi, vous avez des univers très différents, hein, des manières de traiter et d'aborder ces sujets très différentes. Donc, si vous avez envie de continuer un peu les discussions ou de découvrir les ouvrages des auteurs qui étaient présents à cette table ronde, rendez-vous maintenant sous la bulle du livre pour des séances de dédicaces ou pourquoi pas... Voilà, discuter simplement. Merci beaucoup.